Radio Kapi. Il est midi pile à Kinshasa, 13h à Bukavu, au sud Kivu. Bienvenue, voici les titres de ce journal. Le président de la République instruit les gouvernements de veiller à la sécurisation des opérations électorales dans les territoires de Kwamout, Massissi et Rutshuru. Au cours de la réunion du Conseil des ministres hier vendredi à Kinshasa, Félix Tshisekedi a insisté sur la possibilité de faire participer tous les Congolais aux élections de décembre 2023. Au Kwango, l'inhumation d'une élève du lycée Kasanga a tourné au drame jeudi dernier. Près de 10 blessés ont été enregistrés dans les altercations entre la police et les jeunes de la cité de Kasongulunda, chef-lieu du territoire du même nom. L'invité de ce journal est le chef de bureau de l'UNICEF pour le Grand Kasaï. Arsène Niangoran nous parle du projet multisectoriel de nutrition et santé qui sera exécuté pendant 9 mois dans les territoires de Kabeya, Kamwanga et Tilingé par 3 agences du système des Nations Unies. Et tout d'abord, cette information qui vient de nous parvenir, panique généralisée ce samedi dans la cité de Kichanga, en territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. La cité serait en train de se vider de ses habitants. Les uns se dirigent vers la base de la MONUSCO et le camp de l'EAC, tandis que les autres prennent la direction des Mouessou. Ils fuient la progression des rebelles du M23 vers cette cité. Selon diverses sources concordantes sur place, les affrontements ont repris ce samedi depuis 1h du matin entre les groupes armés locaux et les M23 à Bouiza et à Moudougoudou, en coupement de Bichoucha et Tongo en territoire de Rutshuru, ce après quelques jours seulement d'accalmie sous la ligne de front. Selon ces sources, les groupes armés locaux qui occupaient Bichoucha centre se seraient retirés ce samedi matin sans combattre. Ce centre, situé à 15 km de Kichanga, serait occupé par les rebelles. Des tirs à l'arme rouge se font attendre à Kizimba, 6 km de Kichanga, ce qui crée la panique et la psychose dans la région. Dans l'actualité également, le président de la République a instruit le gouvernement à travers le Premier ministre et les ministres de l'Intérieur et de la Défense de veiller à la sécurisation des opérations électorales dans les territoires de Kwamout, Massissi et Rutshuru. Félix Tshisekedi l'a dit au cours de la 116e réunion du Conseil des ministres d'hier vendredi à Kinshasa. Il a insisté sur la possibilité de faire participer tous les Congolais aux élections de décembre 2023, mettant un accent particulier sur ceux vivant dans les zones en insécurité. Plus de détails avec vous, Alain Hirong.
Compte tenu de l'évolution sur terrain de la situation sécuritaire, indiquant un apaisement significatif du côté de Kwamout et une libération progressive des territoires de Massissi et Rutshuru en proie à l'agression rwandaise à travers les terroristes du M23, il s'avère impérieux pour le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer cette situation et de mettre tout en œuvre chacun dans la limite de ses compétences afin de permettre à nos concitoyens de retrouver leur quiétude et de se rendre aux différents centres de votes qui devront être ouverts en prévision des scrutins, a rapporté Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Par conséquent, le chef de l'État a demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, à procéder au déploiement et au renforcement des effectifs de la police nationale congolaise à Kwamout et de superviser avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, en collaboration avec les acteurs nationaux et internationaux sur terrain, le retour des populations déplacées dans les zones libérées de Rutshuru et de Massissi.
Par ailleurs, il est également attendu du gouvernement la sécurisation des opérations de la CENI dans les territoires concernés, moyennant une évaluation préalable de la situation, particulièrement celle relative à l'ouverture des centres d'inscription en vue de l'enrôlement de la population pour les élections générales, a précisé le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Et puisque nous parlons déjà des élections, signalons ce lancement officiel hier vendredi à Kinshasa de la campagne de sensibilisation de la population congolaise pour les élections générales de décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Selon le président de la centrale électorale, cette campagne vise à atteindre une participation massive des Congolais à ces scrutins. On écoute Denis Kadima dans cet extrait que nous propose Grâce Hamza Timasanzi.
Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous sommes exactement à 60 jours des scrutins. Nous voulons une participation massive, mais aussi une participation basée sur la bonne information et une bonne formation. Donc, c'est le moment de lancer cela et puis ça va aller comme ça jusqu'au jour des scrutins. Comme ça, nous allons atteindre cet objectif-là. Aux acteurs politiques, nous disons, nous leur avons promis des choses, notamment l'inclusion. Et vous pouvez voir que nous avons un nombre impressionnant de candidats. Nous avons plus de 110 000 candidats pour tous les scrutins. Dans certains pays, ça peut faire la taille d'un électorat. Mais chez nous, c'est rien que des candidats, ils sont à ce nombre-là. Et quand vous prenez les candidats pour la présidentielle, ils sont 24 et nous avons retenu tout le monde. Parce qu'ils avaient les dossiers en ordre. Donc tant que les gens seront en ordre, ils seront impliqués. Et maintenant, c'est une grande campagne de sensibilisation. Et nous pouvons promettre aux partis politiques que nous ferons notre part pour que le meilleur l'emporte, qu'ils fassent aussi leur part. Ça signifie se préparer, participer.
Et puis Ensemble pour la République salue la validation par la CENI de la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle de décembre prochain. Christian Mando l'a fait savoir jeudi dernier à Lubumbashi au cours de la conférence de presse qu'il a animée au siège du parti. Ses hauts représentants de Moïse Katumbi a par la même occasion appelé à l'unité de l'opposition. On écoute Christian Mando dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou.
Un grand jour de joie parce que notre candidat a été validé comme candidat président de la République. Nous pensons maintenant qu'il est temps qu'il y ait une campagne qui va se mener à partir du 20 novembre à la loyale. C'est-à-dire, plus question d'utiliser la justice, des interférences inutiles. La CENI a proclamé une compétition inclusive. Et nous, nous appelons le peuple congolais à se préparer simplement aux élections. C'est pour nous une occasion d'appeler à tous les acteurs politiques de faire une campagne objective, loyale. D'appeler les services de sécurité, l'administration, la justice à laisser libre cours à une campagne électorale qui doit se passer dans la paix. Nous souhaitons que le meilleur gagne. J'appelle aussi, selon les instructions du président, à l'unité de l'opposition. Il faut que l'opposition soit unie pour faire tomber le pouvoir en place, qui ne reste qu'avec peut-être moins de 60 jours.
Au Kwango, je le disais à l'entame de ce journal, près de 6 blessés ont été enregistrés jeudi dernier dans les altercations entre la police et les jeunes de la cité de Kasongolunda, chef-lieu du territoire du même nom. C'était lors de l'inhumation d'une élève du lycée Kasanga, morte sur place même. Les jeunes de cette entité accusent la police d'avoir ouvert le feu sur les personnes blessées, en majorité les élèves. De son côté, la police dit n'avoir tiré sur aucune personne, mais tentait de dissuader les jeunes qui voulaient inhumer leurs camarades dans la parcelle familiale. Elle parle d'ailleurs des 10 blessés, dont 5 policiers et 5 civils, qui ont heurté les treillis dans leur fuite. Irène Boma pour plus de précisions.
Cette vive tension est née jeudi à Kasongolunda au Kwango à l'occasion de l'enterrement d'une élève décédée par éboulement de terre sur place. Après l'altercation entre la police et les jeunes de cette cité, ces derniers reprochent à la police d'avoir tiré à bout portant sur des élèves et d'avoir blessé au moins 6 personnes par balle. Prince Nkidi, porte-parole de l'organisation des jeunes de Kasongolunda, explique.
Sous une forte tension, la population a incendié 4 maisons. Les élèves partis chercher les corps de leurs camarades décédés se sont vus attaqués par les éléments de la police qui ont tiré à balles réelles contre ces élèves. 6 personnes grièvement blessées, en majorité élèves, dont une fille.
Allégation rejetée en bloc par la police qui parle plutôt de 10 blessés dont 5 civils cognés contre les treillis lors de la fuite et de 5 policiers blessés par des projectiles enregistrés lors de cette altercation. Le commandant de la police de Kasongolunda, le major André Kaouma.
On a tiré des balles en l'air. Il n'y a pas de balles à bout portant. Non, on dissuade les gens.
Pour sa part, le médecin directeur de l'hôpital général de Kasongolunda affirme avoir reçu 6 personnes blessées par balles, dont 3 nécessitent un transfert à Kinshasa pour une meilleure prise en charge. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et pendant ce temps, à Matadi, dans la province du Congo central, les parents d'élèves de l'Institut Tukubaba, une école conventionnée adventiste, situé au quartier Kinkanda, vers le terrain CMDC, dénonce la vente obligatoire des uniformes dans cette école. D'après ses parents, depuis le début de cette année scolaire, le préfet de cette école chasse à maintes reprises plusieurs enfants qui se présentent avec une autre uniforme que celle vendue à l'école. Ils appellent les autorités éducationnelles à faire le suivi des instructions édictées par le ministère de l'EPST concernant une rentrée de classe paisible. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Depuis la reprise des activités scolaires, c'est à plusieurs reprises que la direction de l'Institut Tukubama a retourné les enfants qui ne portaient pas les uniformes vendus à l'école. Les complets de cet uniforme bleu et blanc comportant l'insigne de l'Institut Tukubama coûte 25 000 francs. À part la tenue officielle, cette école vend aussi obligatoirement un polo à 20 000 francs. Les parents qui dénoncent les faits affirment que cette façon de faire viole les instructions du ministère de l'EPST. Ils appellent les autorités à agir.
Qu'on achète des uniformes à 45 000 francs déjà. Or, avec ce montant, on peut payer le frais scolaire pour faire étudier nos enfants. Les instructions étaient données, mais on constate qu'il n'y a pas de suivi. Un jour, on verra que même les ketchup, les chaussettes, on risque d'acheter à l'école parce que l'école a un modèle.
Contacté, Davin Mukanda, préfet de l'Institut Tukubama, rejette en bloc les allégations des parents.
Non, nous, à l'école, on ne va pas les tenir. C'est juste, n'est-ce pas, les enfants s'achètent là où ils devaient acheter, n'est-ce pas, les uniformes. Mais c'est le même qui soit, n'est-ce pas, par rapport à l'harmonie de l'école.
Le directeur de la province éducationnelle du Congo central, un John Bopilo, condamne aussi la vente obligatoire des uniformes dans cet établissement scolaire. Il dit préparer une descente sur les lieux pour s'imprégner de la situation et même infliger des sanctions si cela est confirmé. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, Médecins Sans Frontières annonce son désengagement dans les projets de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida dans trois zones de santé, notamment Goma, Karisimbi et Nyiragongo. Au cours d'une conférence de presse tenue hier vendredi à Goma, cette organisation internationale a lancé un plaidoyer auprès du gouvernement congolais et ses partenaires afin de mobiliser des fonds pour assurer la continuité de la prise en charge des malades, surtout pour les patients qui sont hospitalisés. Ce désengagement suscite déjà l'inquiétude de la société civile qui parle d'un coup dur, non seulement pour les PVV, mais aussi pour la communauté. Selon la société civile, il y a donc nécessité de prendre des mesures urgentes pour couvrir le vide. Des détails avec Denise Lukesso.
Environ 5 000 personnes vivant avec le sida étaient prises en charge par MSF à travers ces projets depuis août 2015 dans 12 centres de santé, tout comme les malades en hospitalisation à l'hôpital de Virunga. MSF se félicite du bilan de ces interventions et parle des objectifs atteints. Cependant, cette organisation internationale dit s'inquiéter des malades qui sont hospitalisés, d'où ses plaidoyers auprès du gouvernement pour mobiliser des fonds pour la continuité. Romain Madisembaye, chef du projet.
Dans le Nord Kivu, ce centre hospitalier, Virunga, seul qui est le centre de traitement du VIH avancé. Et là, c'est avec l'appui de MSF. On avait mis pas mal des appareils qui sont là-bas. Ça a donné de bons résultats parce qu'on avait mis des moyens pour faciliter l'accès à l'hospitalisation. Ce qu'il faut noter qui va faire la différence, après notre départ, le gouvernement met tous ces moyens, là, il n'y a pas de problème. Mais s'il y avait des difficultés à financer tous ces aspects, c'est là où il y aura quelques difficultés.
À l'annonce de ces désengagements, la société civile se dit inquiète. Pour elle, laisser près de 5 000 personnes souffrant du VIH-Sida sans prise en charge est un danger pour elle-même car exposée à la mort, mais aussi et surtout exposer la communauté à la contamination rapide. C'est pourquoi elle sollicite du gouvernement la mobilisation urgente des fonds pour suppléer à la prise en charge. Goma, Denise Lukesso, Radio Capi.
Et puis le ministère de la Santé, par les biais du Centre national de lutte contre le cancer, a lancé jeudi dernier aux cliniques universitaires de Kinshasa la campagne de sensibilisation et dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Selon les organisateurs, cette campagne est gratuite et se déroulera dans cette institution hospitalière de la capitale, soit du 19 octobre au 19 novembre 2023. Jean-Pierre Elali Koko pour le reportage.
Cette campagne de dépistage gratuit vise tous les Congolais de 18 à 69 ans. Cette gratuité concerne également la prise en charge d'au moins 200 malades. Elle est rendue possible grâce au partenariat entre l'État congolais et l'entreprise pharmaceutique suisse Roche. Le professeur Dr Leboisé Massamba, bienvenue, du Centre national de lutte contre les cancers.
La collaboration avec Roche veut que l'État mette un peu d'argent de côté. Roche apporte ce qu'il faut pour amener le médicament, le machine, tout ça. Et Roche a reçu la première contrepartie le 6 septembre 2021. 2022, on a mis en place ce qu'il faut et aujourd'hui, on a plus ou moins 200 Congolais et Congolaises qui sont sous traitement.
Dans ce partenariat, le directeur général pour l'Afrique centrale de Roche, basé à Kinshasa, Mathieu Gallet, a mis en exergue tout l'intérêt qu'il porte à la santé des Congolais grâce à une thérapeutie ciblée.
C'est la raison pour laquelle moi je me lève tous les matins. Faire en sorte qu'on puisse faire bénéficier aux patients l'accès à des médecines de qualité.
La cérémonie de lancement de cette campagne de dépistage gratuit a été présidée par le directeur des cabinets adjoints du ministre de la Santé, le docteur Télé Bantampé. Elle s'est clôturée par la visite de la pharmacie thérapeutique ciblée contre les cancers.
Sud Kivu, la plupart des stations-service de la ville de Bukavu sont en rupture des stocks de carburant depuis quelques jours. C'est ce qui justifie la rareté de ces produits à la pompe, constatée depuis hier vendredi matin. Certaines stations-service restent fermées, faute de produits pétroliers, d'autres auraient même doublé le prix du litre à la pompe. Explication avec les rapporteurs du club des pétroliers du Sud Kivu, Urbain Kangé, joint par Emmanuel Elamejou Akabedi.
Le prix du carburant est monté de 800, 900, 950 jusqu'à 1000 sur le marché international. Et c'est ce qui implique qu'aujourd'hui nous sommes à rupture des stocks. Et d'où vous l'avez constaté ce matin, la non-activité ou soit la fermeture de certaines stations qui ont fermé leurs portes par contrainte, en fait. Nous avions adressé la lettre récemment. La lettre est arrivée au VPM, ministre de l'économie, pour que le ministre puisse introduire au regard, n'est-ce pas, de sa compétence, puisse demander à ce service de pouvoir publier une nouvelle structure qui va nous aider à rencontrer la réalité actuelle pour que nous puissions bien nous adapter sur le marché et également aussi envisager comment renouveler nos stocks. Voilà un peu les difficultés que nous rencontrons dans le secteur.
Ah, donc le problème, c'est rupture de stock, hein?
Rupture de stock, qui implique désormais la fermeture parce qu'on n'a rien à vendre, en fait.
En bref, encore au Sud Kivu, un cas de vindicte populaire s'est produit hier vendredi dans le groupement de Moudaka, au village de Tuni, dans le territoire de Kabare. Il s'agit d'une femme d'environ 30 ans qui a été attrapée en train de voler dans une maison. Elle a ensuite subi des tortures et a rendu l'âme sur place sans aucune intervention, malgré les alertes. Le corps de la présumée voleuse est resté abandonné sur les lieux. La société civile de Kabare condamne les cas de justice populaire devenus récurrents dans cette partie du territoire de Kabare. Elle demande à la population de ce coin de recourir toujours à la justice car elle reste le seul instrument pour juger les malfrats.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, deux journalistes ont été condamnés suite à la publication d'un article dans lequel ils accusent l'actuel ministre de l'économie et les directeurs généraux des impôts et des douanes d'avoir fait perdre de l'argent au pays au cours d'une transaction jugée non transparente impliquant la société minière Yamgold et Sakane. Les directeurs de publication et les journalistes auteurs de l'article ont été reconnus coupables de diffamation et complicité de diffamation. Ils occupent chacun d'une amende de 1 million de francs CFA assortie des sursis.
L'invité.
Nous recevons comme invité dans cette édition du journal Arsène Niangoran, chef de bureau de l'UNICEF pour le Grand Kasaï. Il nous parle du projet multisectoriel de nutrition et santé qui sera exécuté pendant 9 mois dans les territoires de Kabeya, Kamwanga et Chilenge par 3 agences du système des Nations Unies, à savoir UNICEF, PAM et FAO. C'est un projet du gouvernement financé par la Banque mondiale à hauteur de près de 15 millions de dollars américains. Arsène Niangoran s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Arsène Niangoran. Vous vous retrouvez aujourd'hui en Mbujimayi, au Kasaï oriental, pour lancer le projet multisectoriel de nutrition et de santé. C'est quoi ce projet?
Merci beaucoup, madame. Dans cette activité, je parle au nom de 3 agences du système des Nations Unies. Nous avons le PAM, nous avons la FAO, nous avons UNICEF, qui sont engagés ensemble sur le programme multisectoriel de nutrition et d'urgence, qui est un programme national piloté par le ministère de la Santé, par le gouvernement du Congo. Et nous venons aujourd'hui de lancer la phase 2 de la composante urgence du programme multisectoriel de nutrition et de santé.
En quoi consiste cette phase 2?
Quand on parle de phase 2, ça veut dire qu'il y a eu la phase 1. Donc la première phase ciblait 2 provinces, la province du Kasaï et la province du Kasaï central. Et la phase 2 cible la province du Kasaï oriental. Alors, les composantes de cette deuxième phase, c'est 3 grandes composantes. Donc la composante de sécurité alimentaire pilotée par la FAO, la composante de transfert de cash piloté par le PAM et la composante de nutrition associée avec une composante eau, hygiène et assainissement qui est pilotée par l'UNICEF.
Quel est l'objectif de ce grand projet?
Évidemment, comme vous le savez, la RDC fait face à beaucoup de chocs, notamment les chocs alimentaires. Vous savez que nous sommes dans une phase assez critique d'insécurité alimentaire, mais aussi une phase de crise nutritionnelle aiguë dans certains endroits du pays. Et donc, l'objectif de ce projet-là, c'est justement de pouvoir apporter un peu de support pour lutter contre la vulnérabilité aiguë liée à ces chocs que je viens de citer et qui va permettre aux populations et aux communautés bénéficiaires d'être beaucoup plus résilientes face à ces chocs, mais aussi de se préparer à se relever et avoir des composantes qui pourront leur permettre d'améliorer leur stock alimentaire, les stocks de vie pour pouvoir continuer à vivre, disons, de façon heureuse dans cette communauté-là.
Qui sont les bénéficiaires du projet?
Alors, comme on a parlé de vulnérabilité, c'est d'abord les personnes qui sont les plus vulnérables, qui vivent dans, disons, deux territoires de la province du Kassai Oriental, le territoire de Kabeyakamanga et le territoire de Tshilenge. Donc, les bénéficiaires, ce sont les ménages qui sont les plus vulnérables à travers certains critères qui ont été arrêtés et qui pourront être discutés avec les populations. Donc, les ménages les plus vulnérables qui vont bénéficier d'un certain nombre de paquets. Donc, il y a le paquet de sécurité alimentaire avec une composante de distribution de semences, une composante élevage. Il y a le paquet de transferts non conditionnels de cash, donc pour améliorer la vie de ces personnes. Mais aussi, il y a la composante qui cible un peu toute la population, qui consiste en une prévention et à la prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère dans ces deux territoires que je viens de citer.
Qu'est-ce qui justifie le choix de ces deux territoires?
Alors, il faut dire que d'abord, il y a beaucoup de données qui existent, notamment qui font partie des données que nous exploitons au niveau national. Donc, il y a beaucoup de territoires, de zones de santé qui sont en situation d'insécurité alimentaire. D'abord, c'est ça le premier critère. Ensuite, il y a aussi tout ce qui concerne les enquêtes nutritionnelles et tous les sites de surveillance qui font qu'on se rend compte qu'il y a certaines communautés qui vivent dans des zones où il y a une augmentation de l'insécurité. Sécurité nutritionnelle. Et donc, ce sont ces bases-là qui ont permis de pouvoir cibler les zones de santé les plus touchées par l'insécurité alimentaire, mais aussi par la crise nutritionnelle, et qui va nous permettre évidemment de continuer à apporter ces réponses, mais aussi à monitorer la situation dans les autres zones de santé qui ne sont pas forcément en urgence actuellement.
Quelle est la hauteur du financement et qui finance même ce projet?
Alors, c'est un projet, comme je l'ai dit, du gouvernement congolais avec un financement de la Banque mondiale. Disons, le gouvernement congolais a mis en place une unité de gestion qu'on appelle l'unité de gestion du programme de développement des systèmes de santé. Donc, c'est toute cette composante avec comme bailleur de fonds la Banque mondiale qui finance ce projet. Et actuellement, dans le Kassai oriental, ce projet est d'environ 15 millions de dollars américains sur une période de 9 mois.
Et qu'est-ce que vous attendez vraiment du gouvernement provincial du Kassai oriental pour la réussite de ce projet?
Ce projet d'abord est une initiative du gouvernement de la République du Congo et évidemment le gouvernement provincial fait partie des autorités au niveau du pays parce que vous avez remarqué à cette cérémonie de lancement la présence vraiment très appréciée des autorités gouvernementales au plus haut niveau. Donc nous saluons déjà cette implication. Évidemment nous voulons que cet accompagnement-là puisse continuer dans la phase de mise en œuvre du projet pour qu'il puisse répercuter ce message au niveau des autorités locales mais aussi au niveau des communautés pour que celles-ci s'approprient des activités de ce programme.
Monsieur Arsène Nyangoran, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Arsène Nyangoran, chef de bureau de l'UNICEF pour le Grand Kassai, était notre invité. Il s'entretenait en Boujimaï avec Esther Dalafina. Fin de ce journal qui a été supervisé par Alain Irung et coordonné par Jacques-Yves Molima. Jean-Claude Siala, la mise en onde. À vous, j'ai dit infiniment merci de l'avoir écouté.